Bienvenue sur Graines d'IUT, animée par des étudiants en BUT Génie Biologique, parcours Agronomie de Digne des Bains. Notre émission est là pour vous divertir avec bonne humeur et spontanéité. Graines d'IUT, l'émission qui fait germer les idées.
Bonsoir monsieur, madame, je m'appelle Thomas et ce soir, avec mes compagnons de l'IUT de Digne-les-Bains, Sciences Biologie, on va vous accompagner pendant une trentaine de minutes où nous allons vous parler des sujets les déchets zéro, mission impossible. On va commencer par faire un tour de table pour que chacun puisse se présenter. Je vous présente Manon.
Bonjour, alors moi je vais prendre le rôle du citoyen motivé et je vais vous présenter des techniques et des méthodes efficaces pour réduire nos déchets. Voilà.
Ensuite, nous avons Whitney.
Bonsoir, je suis très frustrée par le suremballage et l'absence d'options durables dans les magasins et dans notre vie de tous les jours.
Et pour finir, nous avons Mayouen.
Bonjour, je m'appelle Mayouen et moi, alors j'ai eu la chance de voyager dans ma vie et donc je vais vous faire part de mes expériences et ce que j'ai pu observer au cours de mes différents voyages.
Donc maintenant, je vais poser diverses questions à chaque personne qui vont répondre avec leurs connaissances et leur vécu. Donc je vais commencer par Manon. Manon, quels sont les moyens qui, d'après toi, permettent de réduire ces déchets ?
Alors, personnellement, moi, j'utilise beaucoup le recyclage pour diminuer mes déchets. Donc c'est une solution qui est assez simple à mettre en place et accessible. Par exemple, on va trouver à proximité de chez nous beaucoup de conteneurs qui sont proches de chez nous et bien indiqués. Voilà pour ça. Il faut savoir qu'en 2020, la France elle a produit 300 millions de tonnes de déchets, soit ce qui va représenter par français à peu près 4,6 tonnes. Donc c'est quand même un chiffre qui est assez important. Donc voilà, il faut également savoir que les déchets textiles sont très importants, donc c'est bien de se tourner vers la seconde main plutôt qu'acheter en fast fashion. Par exemple, pour créer un t-shirt en coton, ça va nécessiter à peu près 2700 litres d'eau douce, soit ce qu'une personne elle va boire en un an et demi, donc c'est quand même un chiffre là aussi très important. Donc la seconde main, ça peut vraiment être une vraie solution. On va aussi avoir comme haute méthode donc éviter les emballages superflus, comme par exemple quand on fait nos courses, c'est bien d'apporter nos propres sacs plutôt qu'en racheter. C'est bien aussi d'éviter un maximum les objets créés avec du plastique. Donc on retrouve par exemple de plus en plus de brosses à cheveux en bois. C'est une bonne alternative au plastique.
Mais le problème, c'est que si tu utilises une brosse en bois, tes poils de ta brosse, ils sont faits en bois aussi ?
Oui, en bois aussi.
Mais ça fait un peu mal quand même.
Non, je vous en parle parce que j'en ai une, donc ça marche bien. Oui, non, donc c'est une bonne alternative. On a aussi les cotons réutilisables. Donc ça aussi, c'est pas mal. C'est en tissu, donc après, on les met dans la machine et voilà. C'est bien aussi d'éviter le gaspillage alimentaire, donc par exemple en cuisinant les restes ou en faisant du compost si on a un jardin. Là, j'ai une autre technique qui peut être un peu plus compliquée à mettre en place. Donc, ça va être par exemple acheter nos aliments en vrac. Ça coûte moins cher parce qu'il n'y a pas de reconditionnement plastique. Il va y avoir moins de gaspillage car on va prendre la quantité souhaitée. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut venir avec nos propres contenants. Et donc là, il faut trouver des contenants adaptés. Et il faut que les magasins acceptent aussi que vous veniez avec vos propres contenants. Voilà, ou j'ai une autre petite technique qui là est très facile à mettre en place, ça va être par exemple mettre un stop pub sur nos boîtes aux lettres pour éviter tout ce qui est prospectus, parce qu'on finit par les jeter à la fin, donc voilà. Voilà pour ma petite liste.
D'accord, je te remercie Manon du coup pour ces diverses solutions pour limiter nos déchets. Ensuite je vais poser la question du coup à Winnie. Pour toi, est-ce que les magasins jouent le jeu dans les réductions des déchets ?
Alors, beaucoup de produits sont enveloppés dans des couches de plastique inutiles, rendant difficile une consommation responsable. De plus, lorsqu'on se rend dans les magasins, on constate souvent un manque d'alternatives durables. Par exemple, il peut être frustrant de vouloir acheter des produits en vrac ou sans emballage, mais de ne pas les trouver en rayon. Donc il est très difficile de s'engager dans une démarche éco-responsable lorsque les magasins ne proposent pas d'options adéquates. Cela peut donner l'impression que nos efforts sont réduits et que notre empreinte écologique est vaine. Donc Nous avons besoin que les enseignes prennent des initiatives pour proposer des alternatives pratiques et accessibles. Sinon, ça devient un véritable obstacle à la consommation responsable.
Le problème, c'est que par exemple, moi, une fois, je suis allée à grands frais et tout ça, et plusieurs personnes me le racontent. C'est que par exemple, si on veut prendre plusieurs fruits et légumes, mais qu'à chaque fois, on va en prendre un, par exemple, si tu prends deux concombres et une pomme, et en fait, on va devoir être obligé de prendre deux sacs plastiques. Et en fait, ce qui est complètement... tu pollues encore plus, alors qu'au final, tu prends juste une pomme. Et donc, ceux qui sont les caissières et tout ça, ils nous avaient dit d'aller rechercher un sac plastique pour mettre juste ta petite pomme qui était toute seule. Et donc, du coup, les enseignes, elles ne font pas vraiment grand-chose, quoi.
Oui, je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, j'allais y venir. J'ai eu cette expérience il n'y a pas plus longtemps qu'avant-hier. En me rendant à Grand-Var, justement, je me suis retrouvée dans l'impossibilité de faire des achats en vrac sans avoir de suremballage. Pour acheter trois brindilles de citronnelle, j'étais obligée de prendre un sachet plastique. Pour faire un autre achat avec des fruits, j'étais obligée de prendre un autre sachet plastique. Et au final, je me retrouvais avec une multitude de sacs que j'allais mettre à la poubelle. Même si parfois, c'est marqué que ces plastiques sont biodégradables, je ne suis pas très confiante quant à cette appellation, on va dire.
Okay. Avant de continuer, du coup, on va faire une courte pause musicale.
Thank you.
nous sommes sur la fréquence Mistral de Digne-les-Bains 99.3. Donc je suis toujours accompagné de mes camarades pour vous présenter le zéro déchet mission impossible, qui est un débat. Donc on s'était arrêté avec Whitney qui nous avait parlé des complications avec les magasins pour limiter la pollution des déchets. Maintenant, je vais poser la question à Maïwenn. Au cours de ces divers voyages, as-tu observé des pays où il est plus facile de réduire ces déchets ?
Alors moi, j'ai pu remarquer que la gestion des déchets, elle variait selon les pays. Il y en avait certains qui géraient mieux que d'autres, mais donc aucun n'échappait au problème. Et souvent, donc, c'était les pays qui étaient les moins développés, qui croulaient souvent sous les déchets faute d'infrastructures. Tandis que les pays riches qui produisent énormément, eux, cependant, ils les dissimulent mieux. Par exemple, je peux donner l'exemple de Dubaï. Je sais que eux, c'est un pays qui sont assez développés. Donc on va pouvoir marcher dans la rue sans voir aucun déchet par terre ou quoi que ce soit. Mais par exemple, quand on arrive en avion, on peut voir que vraiment l'atmosphère, il est vraiment pollué. Ça peut même être, des fois orange, parce que vraiment la pollution là-bas, au niveau des industries, de la circulation, ou, c'est vraiment très pollué là-bas.
En fait, ouais, c'est plutôt une pollution qui va être invisible. Enfin, on va pas avoir de déchets dans les rues. C'est très propre au niveau des poubelles. Enfin, les poubelles, elles vont pas déborder ou quoi, mais voilà, ça va être vraiment
plus atmosphérique, pollution
invisible, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais par contre, pour ce qui est des pays qui sont le moins développés, par exemple, je peux donner l'exemple du Sri Lanka. Où on peut voir beaucoup de déchets sur les plages, vraiment à perte de vue, c'est vraiment énorme. Donc eux, ils manquent d'infrastructures, donc par exemple, ils n'ont pas de centre de recyclage. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est quand ils vont utiliser, par exemple, une boîte où à l'intérieur, il y avait, de la viande, par exemple, ils vont après pas la mettre dans leur poubelle. Il n'y a pas un camion après qui va venir et recycler ou aller enfouir les déchets plus loin. Non. C'est en fait les habitants, ils brûlent eux-mêmes en fait leurs déchets. Et du coup, quand on visite un peu, ce qui est désagréable, on visite un peu une ville, ça sent vraiment le cramé partout dans toute la ville. On peut voir ça aussi, par exemple, au Vietnam ou encore aux Philippines. C'est abusé en fait. Et on peut dire aussi qu'au Vietnam, de ce que j'ai pu faire de tous mes voyages, le pire c'était le Vietnam. Par exemple, je me souviendrai toute ma vie de cette image. C'est d'avoir vu une femme qui habitait donc juste au bord de la mer. Et en fait, elle a ouvert sa fenêtre et elle a jeté tous ses déchets plastiques qu'elle a pu utiliser. Et donc, c'est vraiment... En fait, là-bas, ils sont, je pense... habitués de voir tous ces déchets qui les entourent dans leur environnement. Et du coup, pour eux, ça ne les importe même pas en fait, de jeter quelque chose dans la mer. Ils ne vont pas se dire « Ah, ça peut tuer une tortue » ou voilà, les choses comme ça. Quoi.
Ouais, ils ne sont pas sensibilisés à la cause environnementale comme dans les pays développés où on va avoir des cours à l'école, etc. Dans les pays en voie de développement, c'est pas le cas, quoi.
Ouais.
Donc je pense que c'est surtout ça qui a un impact là-bas, quoi.
Et par exemple aussi au Sri Lanka, là, j'ai pu voir quand j'y suis allée en janvier, on a vu en fait quand on achète quelque chose, par exemple ça peut être des biscuits, et en fait ils vont déjà donc les emballer. Et à la fin, ils vont même limite te mettre deux sacs en plastique pour vraiment que ça soit bien entouré et que c'est sûr que rien,
rien ne tombe, rien ne casse.
Voilà,
quoi.
C'est ça. C'est vraiment en fait une surconsommation là-bas et c'est pas du tout sensibilisé, vraiment pas du tout, quoi.
Donc du coup, on voit que les pays, la façon dont ils sont évolués, on a diverses...
Des impacts différents.
On a des impacts différents en fait. Un pays qui va être développé, il va avoir du coup plus de moyens pour recycler, alors qu'un pays qui est en cours de développement, comme tu disais, par exemple le Sri Lanka, où ils n'ont pas les moyens pour tout recycler, ils vont brûler ou jeter directement à la mer, étant donné qu'ils n'ont pas tous les établissements faits pour limiter leurs déchets environnementaux.
Voilà, c'est ça.
Ouais, et puis par exemple, dans les pays développés, on va avoir des amendes et tout aussi pour faire respecter pour faire respecter tout ça. On en parlera juste après, mais je pense qu'il y a ça aussi qui joue.
D'accord. Voilà. Donc, du coup, moi, je vais finir par une conclusion par rapport à tout ce que vous avez dit. Donc, on peut constater que les expériences personnelles sont très variées. Selon donc Winnet, elle, c'était par rapport au commerce. On avait Manon, c'était ses différentes solutions. Et ensuite, Maïwenn par rapport à ses différents pays visités. Dans la seconde partie, nous allons débattre sur la question est-ce que nos efforts collectifs suffisent ou faut-il des acteurs plus importants tels que du coup les entreprises, voire le gouvernement. On reparle de cela après une courte pause musicale. Bonjour monsieur, madame, nous sommes toujours sur Fréquence Mistral Digne-les-Bains 99.13. Nous sommes en compagnie du coup de mes collègues de l'IUT, graines d'IUT. Dans la première partie, nous avons présenté la mission Zéro déchet impossible. Et là, du coup, pour la seconde partie, nous allons parler du sujet s'il faudrait pas une action plus grande, si l'entreprise ou le gouvernement pour justement limiter nos déchets. Donc la première question que je vais poser à Winnie, c'est tu disais que les magasins ne font pas assez d'efforts. Penses-tu que c'est une entreprise de changer?
Très bonne question. Je pense effectivement que les entreprises ont un rôle crucial à jouer dans ce changement. Elles possèdent les ressources et l'influence nécessaires pour adopter des pratiques plus durables et réduire le suremballage. Cependant, il est également important que les consommateurs expriment leurs attentes et soutiennent les entreprises qui prennent les initiatives positives. Je parle de réelles initiatives et pas seulement de greenwashing, par exemple. D'après les chiffres que Manon a précédemment cités, qui viennent de environnement.gouv, la production mondiale de plastique qui a atteint environ 370 millions de tonnes en 2020. Et chaque année, donc, 2 à 3% de ce plastique est rejeté dans l'environnement marin, avec pour conséquence des dommages environnementaux. Même si les entreprises doivent faire des efforts, la responsabilité ne repose pas uniquement sur leurs épaules. Les deux parties doivent collaborer pour créer un environnement où des choix durables sont facilement accessibles. Et cela doit être aussi mis en place par le gouvernement, je le pense.
D'accord. Du coup, je te remercie, Winnie, pour ces explications. On va continuer avec moi, Iwen. Par rapport aux pays que tu as pu visiter, est-ce que tu penses que l'économie contribue à la production de déchets?
Alors, je pense que d'un côté, oui. Je vais te donner l'exemple du Vietnam ou des Maldives, où on pouvait voir que les déchets plastiques sont vendus donc, par les habitants, à d'autres habitants du coup. Et en fait, ça va leur servir, je sais pas, pour... Par exemple, si c'est une bouteille en verre, elle va juste être rincée, donc elle va être vendue d'abord. Et après, les gens vont la rincer et après la réutiliser. Ou alors même en Tanzanie, quand j'y suis allée, on pouvait voir les peuples Maasai. Et donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent les pneus de voiture. Et avec ça, ils se font des chaussures. Et en fait, leur danse culturelle, c'est de sauter haut. Et grâce aux pneus, et bien en fait, ils peuvent sauter haut, du coup, c'est assez drôle. Donc voilà pour les exemples. Mais je pensais, pour expliquer vite fait, que le tourisme, c'était un moteur de production de déchets. Par exemple, quand on voyage, sans le faire, c'est indirectement. Par exemple, tu vas acheter une bouteille d'eau, tu vas pousser à la consommation, donc toi, après, tu vas le jeter. Donc ça va être un déchet au final. Donc du coup...
En fait, sans s'en rendre compte, ce que tu dis, c'est que quand on voyage, juste en achetant et en jetant, on va créer une quantité supérieure de déchets qui auraient été, qui n'étaient pas prévus dès le début.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Et du coup, donc, on va finir par Manon. Donc, du coup, selon toi, l'effort personnel à la fin peut avoir un grand impact sur la globalité des déchets.
Oui, j'ai vu sur une étude du cabinet du Conseil Carbone 4 que les petits gestes écologiques donc, qu'on peut faire nous individuellement peuvent réduire les émissions de carbone de 25%, donc c'est pas négligeable. Si tout le monde pense que nos petits gestes pour l'environnement ne servent à rien, alors plus personne ne fera du coup l'effort d'en faire. On parle ici de petites actions qui ne vont pas bouleverser notre quotidien. Enfin, trier nos déchets et les recycler, c'est pas monstrueux à réaliser. C'est simple à mettre en place. Selon moi, changer l'opinion des citoyens ordinaires contribue à terme à faire évoluer l'opinion de la société et par conséquent celle des politiques et des entreprises, parce que du coup, ça va ensemble. Enfin, de mon point de vue, tout ça va ensemble. J'ai également vu dans une étude qui a eu lieu en 2020 que près de 2 Français sur 5, donc environ 40%, agissent individuellement en faveur de l'environnement pour laisser aux générations futures un environnement de qualité, tandis que 26% le font pour des raisons de santé. Donc ces motivations personnelles, elles peuvent vraiment influencer l'opinion publique et par extension orienter les politiques environnementales, pardon. Bien que les actions individuelles, elles puissent sembler modestes face aux émissions des grands pollueurs, elles jouent un rôle essentiel. Elles participent à la diminution des émissions globales et encouragent les entreprises et les décideurs politiques à adopter des pratiques qui vont être plus respectueuses pour l'environnement.
Je suis totalement d'accord avec toi, Manon. tout le monde devrait faire un effort. Et si chacun fait un petit effort à son échelle, on va dire, on pourra contribuer à changer les choses. C'est l'image que j'ai trouvée très belle d'un mouvement qu'on appelle les colibris. On est des petits oiseaux, en fait, qui ramenons nos petites branches pour faire un grand nid et donc contribuer à rendre le monde un peu meilleur.
J'ai vu qu'il y avait également des filières qui se sont développées, donc on les appelle les filières REP, donc à responsabilité élargie du producteur, qui obligent les acteurs économiques à prévenir, gérer et recycler les déchets qu'ils mettent en circulation. Et donc ces filières, elles sont en train d'augmenter en nombre. On en avait 14 en 2021, et là aujourd'hui en 2025, elles sont 24. Donc elles ont permis de collecter en tout 9,4 mégatonnes de déchets en 2021. Donc tout ça, c'est en train d'évoluer petit à petit. Mais c'est du coup dû également du coup, à l'opinion donc des citoyens ordinaires quoi, qui font changer l'opinion de la société et après des politiques. Quoi.
D'accord. Voilà. Donc du coup, je vous remercie Maïwenn, Manon et Winnie pour nous avoir développé ce sujet. Donc je vais finir en conclusion par rapport à tout ce que vous avez dit, donner les points positifs, ce que chacun a pensé. Donc je vais commencer par toi, Maïwenn. Comme tu dis, alors, il est important d'arriver au zéro déchet, mais comme tu as pu le voir au cours de tes divers voyages, il est très compliqué parce que dans certains pays, ils vont l'utiliser comme moyen de commerce ou comme, comme élément de loisir, comme tu disais.
Voilà, donc au final, ça sera
pour les tribus,
jamais.
Ils utilisent des moyens... C'est une façon de recycler parce qu'ils vont l'utiliser, mais pas comme nous on le voudrait. Ensuite, donc il y a Winnie. Donc toi, tu dis que la responsabilité du zéro déchet, c'est pas uniquement le consommateur, mais les entreprises. Donc effectivement, oui, les entreprises, elles nous poussent souvent à acheter de l'alimentation qui va être emballée. Il va y avoir énormément de plastique, alors qu'on n'est pas forcément obligé d'acheter toujours autant de plastique. Et Manon, pour finir. Selon toi, il est important de changer le point de vue de la société pour pouvoir faire évoluer cela. Donc on a trois positions diverses qui sont toutes les trois très intéressantes à développer. Tout ce qu'on peut dire, le mieux pour la société entière, c'est que chacun fasse son petit acte pour mieux pour l'environnement. Surtout, on le sait, quand vous êtes en route, on a tendance à jeter nos déchets par la fenêtre. C'est rien, mais ne les jetez pas. C'est même pas l'écologie, c'est l'environnement. Rien ne sert de polluer en jetant vos débris par la fenêtre. Donc je vous remercie, monsieur, madame, de nous avoir écoutés. Je vais laisser la parole ensuite donc, à d'autres élèves qui vont présenter un autre sujet. Pour ma part, c'est terminé. Je vous remercie. Et on se quitte avec une musique. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.